Je vais continuer sur la même pensée, ce que j'ai fait donc déjà pendant 2 semaines, et puis Thierry a mentionné quelques pensées aussi dimanche dernier, concernant la construction de l'autel pour la reconnaissance, donc je continue sur le même thème, construisons un autel de la reconnaissance. Et je vous ai parlé donc d'Israël, et souvent Israël s'éloignait de Dieu. Et ici, donc c'était le moment quand Élie était donc le prophète, et pendant le temps que Élie était parmi l'Israël, le roi d'Israël et puis donc le peuple se sont éloignés de Dieu et ils ont glorifier donc les dieux qui n'existent pas ou les dieux de Baal. Voilà, c'est plutôt, pour vous dire simplement l'idolâtrie. Je répète un peu ce que j'ai déjà dit dans le passé, pour ceux qui n'étaient peut-être pas là. Et puis, il y a un moment, donc, Élie convoque le peuple d'Israël et aussi les prophètes de Baal. Donc, d'après vous, est-ce que vous vous souvenez à combien il y avait donc des prophètes, des faux prophètes? Bon, 400 et 450, ça fait 850 prophètes qui adoraient donc les faux dieux, les dieux de Baal, d'accord? Et puis donc, Élie, il a convoqué, donc, il a rassemblé l'Israël et plus ces 850 un prophète, donc ça faisait beaucoup de monde, hein, vous voyez. Et puis, donc, il s'est adressé au prophète pour dire, bon, il y en a assez maintenant, il faut savoir qui sert Dieu, le vrai Dieu, et qui sont ceux qui adorent le faux Dieu, c'est-à-dire le Dieu de Baal. Donc, il a donné des recommandations, faites un autel, construisez un autel, prenez un taureau, découpez en morceaux, vous mettez de la viande dessus, le bois, etc., etc. Et voilà, ensuite, vous priez. Vous allez prier votre Dieu, et nous allons prier à Dieu d'Abraham, Isaac, Israël, Jacob. D'accord? C'est bon? Un vrai Dieu. On verra qui est le vrai Dieu. Donc, c'était cette offrande-là qui devait être donc consumée, confirmé par Dieu. Et puis finalement, les dieux, tous ces prophètes, les faux prophètes, ils ont fait ce qu'il fallait faire, ils ont réuni les choses, ils ont construit l'autel, et ils prient, ils crient, il n'y a pas de réponse, il n'y a rien qui se passe. Et Élie a rigolé même quelque part en disant, il les a sous-estimés, vous pouvez prier tant que vous voulez, il n'y a rien qui va se passer. Parce que nous avons un Dieu, il existe un Dieu vivant, c'est lui qui est Dieu tout-puissant. Donc il y a rien qui s'est passé, puis ensuite Élie, à son tour, il a fait la même chose. L'autel, la viande, le bois, l'eau autour, etc. Et voilà, il dit à Dieu, « Dieu, écoute-moi, accepte ma prière. Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. » À cette époque-là, Élie ne pouvait pas dire, « Oh Dieu, au nom de Jésus !» Il n'était pas là. Il était là, Jésus était là, mais invisible, inconnu. Donc, c'était Dieu. Et voilà le feu de Dieu. Alors, je sais que certains ont peur quand on parle de feu. Le feu, c'est quelque chose qui est destructeur. Oui, quand c'est les mauvais, mais oui, nous avons besoin du feu pour s'échauffer. Il y a des rayonnements, ça fait du bien, on se réchauffe à la maison, donc vous voyez. Enfin, le feu de Dieu est descendu et il a consumé donc l'offrande. C'est-à-dire que Dieu a accepté cette offrande, Dieu a répondu, Et c'était vraiment un vrai miracle, parce qu'il ne fallait pas des allumettes, il ne fallait pas le feu, il ne fallait pas du tout comment produire le feu. Le feu de Dieu est descendu. Voilà, le Saint-Esprit de Dieu est descendu pour accepter, pour consumer l'offrande qui était offerte pour honorer Dieu. Donc, Élie, ce qu'il a fait, enfin, c'était la parole de Dieu qui était adressée à Élie. Et puis Élie, son devoir, c'était égorger, faire tuer tous les faux prophètes. Bon. Humainement parlant, une histoire terrible. Hein? Il a fait tuer 850 prophètes qui n'adorait pas Dieu, un vrai Dieu, mais qui adorait le Dieu de Baal. Ça va? Vous me suivez? Et puis donc, qu'est-ce qui se passe plus loin? Après que Dieu a agréé cette offrande, donc, il y a quelque chose qui se passe, qui continue plus loin. On va lire ensemble. Vous allez voir ce qui s'est passé plus loin avec Élie. Donc, pour ceux qui connaissent cette histoire, les anciens chrétiens, pour vous, c'est clair. Pour d'autres, peut-être, voilà, vous découvrez. Et si c'est compliqué pour vous, il faut lire. Voilà, vous lisez le premier roi. Chapitre 18, 19, etc., pour voir un peu ce que je vous ai apporté pendant les trois dimanches. Donc, 1 roi 19, chapitre 19, le premier 7 versets, tu peux lire à haute voix pour tout le monde, si tu veux bien, Alex.
Alors, Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un géné et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un géné et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. »
Voilà, vous avez compris. Après le combat, c'était vraiment un combat pour Élie. Hein. Donc, il y avait quoi? Il y avait le combat, oui, et ensuite, après le combat, la victoire. Est-ce qu'il a eu la victoire ou non? Oui, grâce à Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Pourquoi? Parce que Élie était un homme de Dieu, un prophète, il avait une relation personnelle avec Dieu, et quand il a dit, avant le contexte nous parle, Dieu... Écoute-moi, maintenant il faut que tu te manifestes, que tu es vivant, que c'est toi qui es Dieu d'Israël, mais pas les d'autres dieux qui n'existent même pas, les dieux de Baal. Donc, je répète, après les combats, il y avait la victoire. il y avait la victoire. Et puis vous avez vu ce qui s'est passé avec Élie. Il était découragé. On peut appeler ça comme ça. Hein. Vous l'avez vu dans quel état il se trouve, complètement découragé. Il a dit, bon, bah, Dieu, je préfère mourir. Tu vois ce qui s'est passé maintenant. Voilà, il y a les menaces. La femme du roi, elle a dit que c'est fini. Tu seras aussi. Tu vas être tué comme tu as tué toi-même les prophètes. Et quelque part, voilà, c'est un homme qui réagit d'une façon humaine pour dire, bon, bah, voilà, on a déjà tué tous les prophètes. En Israël, les vrais prophètes, je suis là le dernier, ah ben voilà, ils vont me tuer. Donc, quelque part, un découragement. Et nous, dans notre vie, quelquefois, ça arrive, hein, un découragement. J'ai toujours, toute ma vie, pendant toutes ces années, j'ai toujours fait en sorte que je puisse ne pas accepter cette idée découragement, la frustration, insatisfaction, j'ai détruit il n'y a pas longtemps, je vous ai déjà dit. Hein. J'ai toujours, souvent j'ai dit je suis content, mais insatisfait. Même l'insatisfaction, j'ai éliminé de mon langage. Parce que je sais que Dieu est vivant, il est puissant, et quelquefois il faut passer par des moments difficiles. Parce que je vais vous montrer plus tard, il y avait les hommes de Dieu qui passaient par des moments difficiles, et Jésus lui-même passait par des moments difficiles. Donc voilà, alors Dieu regarde Élie sous un arbre, il dort, découragé, il n'y a plus de force. Et Dieu, par un ange, lui dit, Élie, lève-toi! Symbolique, on se lève pour quelque chose. Et Dieu lui dit, l'ange lui dit, lève-toi et mange. Et puis il a mangé, il a pris de la force, il était à nouveau en forme, et tout à coup, voilà, la dépression, le découragement, la fatigue. Ah! Et pourtant, un homme de Dieu, remarquable, un prophète. Et deuxième fois, au verset 7, l'ange de l'Éternel vient une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. La première fois, lève-toi, mange. Et plus tard, après qu'il s'est encore reposé, puis dans sa fatigue, un peu dans ses pensées, dans son découragement, un nouveau deuxième message lui dit, lève-toi, mange, c'est une chose, fortifie-toi. Et les schémas, serait trop lent pour toi. Après, il a marché 40 jours plus tard, mais je ne vais pas parler de ça. Donc, le chemin était vraiment lent. Donc, quelque part, vous voyez ici, Dieu s'adresse à cet homme de Dieu pour lui dire, voilà, fortifie-toi, mange. Le chemin est très lent. Il y aura encore des combats. Il y aura encore des difficultés. Il voulait lui dire, je suis là avec toi. Vas-y, marche, avance pour d'autres missions. Ça va? Alors, mes amis, quand on regarde le Nouveau Testament, les hommes de Dieu dans le Nouveau Testament, comme Paul, Pierre et d'autres, voilà, on va lire 2 Timothée, chapitre 4, le verset 7 et 8. Vous allez voir que Paul avait aussi des combats. 2 Timothée 4, verset 7 et 8. J'ai combattu, ça va? J'ai combattu, combat. J'ai combattu le bon combat. Si Paul dit, parle de bon combat, c'est qu'il y a aussi un mauvais combat. Souvent, je vois chez les chrétiens, ils font un mauvais combat. Ils n'ont pas de victoire parce que c'est un mauvais combat. Mais ce n'est pas mon sujet ce matin. On va certainement reprendre ça plus tard. N'oubliez pas. Donc aujourd'hui, on s'arrête sur un bon combat. Paul, un bon combat. J'ai achevé la course. Je ne vois pas très bien là. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. La course. Donc il parle de la course. Ça va? J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, Paul dit, je m'arrête pour que vous puissiez digérer. Pas juste d'écouter, mais digérer, vivre cette parole de Dieu. Mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, c'est-à-dire son avenir qu'on viendra nous chercher. Ça vous conforte? Ça vous donne la force? Le courage pour aller plus loin avec Jésus? Paul avait été combattu, mais il dit lui-même, j'ai combattu à beau combat. J'ai détruisais les oppositions, les religiosités, la fausse croyance, les idoles. Et j'avançais, j'ai prêché l'évangile. Et les gens ont été sauvés par la puissance de la parole de Dieu. Oh! Ça bouillonne en moi quand je parle de ça tellement fort. Vous me soutenez là? Ça va, vous êtes avec moi? Donc voilà, beau combat et aussi la course. Donc courir. À Corinthiens, chapitre 9, le verset 29 nous dit, à Corinthiens 9, 26 nous dit, moi donc, j'y cours. Il prend l'exemple du sport, de ceux qui courent. Vous avez une connaissance, vous savez ce que c'est la vie, le sportif. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, comme ça, c'est faire plaisir. Je frappe, non pas comme battant l'air. Non, il avait un but. Amen. Et deuxième pensée très forte. Matthieu 27, versets 45, 6 et 7. Je nous lis Alex à haute voix.
La sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie.
Mon Dieu, Jésus, pourquoi m'as-tu, une fois de plus, mon Dieu, répétez avec moi, mon Dieu. Pourquoi abandonner? Vous vous rendez compte? Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Sur la croix, il était dans la chair, comme toi et moi. En voyant ses souffrances, dans ses souffrances, il crie à Dieu, à son Père. Mon Dieu, pourquoi? Pourquoi m'as-tu abandonné pendant juste un laps de temps? Et il est mort. Et il est ressuscité. Donc, il y avait les combats. Humainement parlant, tout le monde autour de lui pensait que c'est fini. On a crucifié Jésus. Et tous ses adversaires, les religieux, les pharisiens, ils étaient tous heureux parce qu'ils ont dit, bon, c'est bon, on a fait crucifier. Maintenant, il ne va pas perturber le peuple. On aura la paix. Tu parles. Après la résurrection, 3 jours après, il ressuscite. Plus de 2000 ans après, il est toujours vivant. Et il est présent ce matin dans cette salle pour te donner la victoire. Pour briser tes faiblesses, tes péchés, les fausses doctrines, fausses enseignements, fausses croyances. Alléluia, amen. Donc Jésus, lui-même, il est passé par des moments difficiles, ça arrive. Ah ben nous, quelquefois, pas quelquefois, moi, si je peux vous parler pendant tout ce qu'on a vécu pendant les 40 ans de ministère, chaque fois, on sait juste d'accrocher à des choses positives. Négatives, 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 une claque, un combat, la mort, d'autres choses. Et ça, chaque fois, ça m'a donné la force quand j'ai vu une âme sauvée. Quand j'ai vu une âme sauvée, ça m'a donné la force. Parce que j'ai dit, je me suis dit, ah ben voilà, tu m'accordes, Seigneur, ta faveur, je suis là, tu un canal de bénédiction pour les autres. Amen. Alors, on parlait ici, donc, dans toute cette histoire avant, d'un autel, combat, la victoire, épreuve. Aussi dans le Nouveau Testament, même Jésus. Et puis là, la marche, comme Élie, il a entendu cette voix, car le chemin serait trop long pour toi et moi. Il y a la marche. Quand je vois les enfants qui sont partis, j'ai grandi comme ça, dans les églises clandestines en Pologne à l'époque. Voilà, j'ai essayé de passer en dessous les tables. Les chaises, parce que voilà, on était là, moi j'ai pas connu l'école de dimanche, tout ça. Mais la parole de Dieu a été semée dans mon cœur. Voilà. Et les années passent. Il fallait s'accrocher, courir. C'est pour ça, mes expressions, quelquefois, je dis en avant, lève la tête! C'est mon père qui nous disait toujours, quand on venait à la maison un peu abattu, voilà, à l'école, vous savez, les écoles communistes à l'époque, ce n'était pas du tout la même chose que vous connaissez. Et mon père nous a dit, lève la tête! Ah bon? Je lève la tête, mais pourquoi faire? Il lève la tête, d'où vient la force, la puissance. Et nous prêchait comme ça, symboliquement. Toujours des paroles positives. Ah, je suis nul. Non! Tu es important, tu es un fils de Dieu, pas juste un nul. Non! Fausse croyance! Et on va éliminer tout ça. Amen! Donc vous voyez, le schéma est long. Le schéma est quelquefois difficile. Le schéma, quelquefois, est tracé d'une certaine façon où on est arrêté par les épreuves, par des moments difficiles. Et chaque fois, ce que j'ai dit aux uns et aux autres, quand tu as des moments difficiles devant toi, fais tout pour ne pas reculer. Mais au moins, fais tout pour résister. Je résiste, peu importe ce qui se passe autour de moi, pour ne pas reculer. Et au moment où les choses se calment, on avance. On lève la tête. Et souvent, dans les problèmes, dans les difficultés, on s'enferme dans nos problèmes, nos découragements, etc. Comme Élie. Mais Dieu est là au moment où tu construis un autel tout le temps, toute ta vie. Même si tu as un moment difficile, eh ben voilà, Dieu est là. Voilà, donc notre autel, c'est notre vie de tous les jours. Construisons l'autel de reconnaissance. C'est quoi? Tout à l'heure, on va nous passer le programme de l'Église. On nous parle de cœur, on nous parle de prière, etc. Donc le programme d'Église, voilà. On est là, on est tous associés ensemble. Ensemble, pour que ce programme, nous puissions le réaliser, vivre. Amen. Pas juste écouter là, et puis voilà, savoir ce qui se passe. Non, j'apprends, je mets en action et je vis, je mets en pratique un programme qui est travaillé, pas juste par moi tout seul, mais ensemble, avec d'autres. Alors, pour que l'autel de l'Église soit fort, donc il y a l'autel personnel, du couple, familial. Souvent, nous... Voilà, on nous appelle parce qu'il y a un anniversaire, tout ça, on profite pour se réunir ensemble. On est 32 ou 33, je pense, j'ai déjà oublié, c'est tellement compliqué pour compter tout ça. 33. Voilà, et on est ensemble. On est tous sauvés. Quelle joie. Imparfait, on est imparfait. On est bien d'accord. Voilà. Donc, on construit l'autel ensemble, personnellement, en couple, la famille et l'Église. Et l'Église, c'est une famille. Amen. Donc, la question de la louange et l'adoration, la prière, intercession, c'est pour qui? Pose-toi la question maintenant. Dans les programmes de l'Église, il y a la prière. Ce matin, certaines personnes étaient là pour préparer les cultes, mais d'autres personnes étaient déjà là-bas à 9h, c'est ça, 9h. On a prié pour le culte, on a prié pour l'Église. Qui a besoin de cette prière? Moi, j'étais là, je suis toujours là, pratiquement toujours là. Parce que j'ai besoin de parler avec mon Dieu. J'ai besoin de parler. Ce n'est pas parce que j'ai 40 ans de ministère derrière moi. Je ne sais rien par rapport à ce qui est Dieu. Je connais juste partiellement. J'ai besoin de Dieu. Aujourd'hui, j'ai besoin d'écouter les jeunes. J'ai besoin d'écouter mes petits-enfants. Ils sont venus hier et j'ai regardé. Ils parlent d'une certaine façon. Et quelquefois, j'ai dit, voilà. Un enfant de 10 ans, mais pas sa message. C'est beau tout ça. Quelle joie. On construit un hôtel en famille. Et on suit l'Église ensemble. Donc, le programme de l'Église, la prière, ce n'est pas pour les autres. Ce matin, je me suis réveillé très tôt. Et j'ai prié. Christiane, elle est arrivée à la table, le café était déjà fait, elle a de la chance quelquefois. Il y a des moments, c'est elle. À d'autres moments, c'est moi qui fais le café. Et voilà, comme ça, spontanément, je parle avec mon Dieu, avec mon Père. Je dis, oh, merci pour la nuit. Bénis la journée. Bénis le culte. J'ai parlé avec mon Dieu. Et bénis d'autres rencontres que nous aurons pendant cette journée, les conversations et tout ça. C'est bien, mais j'ai besoin de prier aussi avec vous, avec les autres. Est-ce que c'est clair? Quand vous pouvez, venez prier ici mercredi. Ça fait partie du programme de l'Église. C'est pas parce que c'est pas juste moi ou quelques responsables qui ont besoin de prier pour être encore plus spirituel. Humainement parlant, nous sommes tous au même niveau. Mais nous avons besoin de porter ensemble dans la prière l'Église pour que l'Église puisse grandir. Amen. Vous avez des voisins, des amis, la famille, ils ont besoin d'être sauvés. Donc, je vous encourage. L'Église doit construire cet autel et la présence de Dieu va se présenter. Donc, la prière, l'intercession, c'est pour toi et moi. Dites-les aux autres. La prière, c'est pour toi et moi. Dites-les aux autres. La prière, c'est lundi matin au niveau de l'église. On est entre 5 et 10 personnes que nous prions chaque lundi. Et moi, je suis là. Sauf, une fois de temps en temps, c'est un problème. La prière, c'est dimanche matin avant le café. Moi, je suis là. Parce que j'ai besoin de parler avec mon Dieu. Et mercredi, l'église sera là. Amen. Alors, je vais vous voir beaucoup plus nombreux mercredi ici. Alexis, tu vas compter. Mais bon, on est là, on n'est pas là, c'est pour Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est pour que Dieu soit glorifié. Amen. La parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est-à-dire la formation de la biblique, la formation, l'étude biblique, peu importe qu'avant, on disait l'étude biblique. Mais on va plutôt dire la formation biblique pour découvrir la parole de Dieu, pour piocher, creuser dans la parole de Dieu, pour apprendre la parole de Dieu, parce que l'ennemi vient souvent pour nous décourager. Et puis même Jésus, il était tenté quelquefois et il a répondu par la parole. Vous comprenez? Donc il y a une puissance de la parole de Dieu. Donc il y a les fondamentaux. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que nous voulons ensemble construire l'autel. C'est la reprise de cette nouvelle année scolaire. Alors, il faut que l'Église puisse être à nouveau propulsée. Donc, la jeunesse, la même chose, les jeunes, si vous êtes de jeunes. Il y a des activités pour la jeunesse. Ensemble, construisons l'autel à Dieu, l'autel de reconnaissance pour que la jeunesse puisse aussi servir Dieu. Les enfants, regardez, on me parle ici de 40, 50, quelquefois 30 enfants. C'est beau tout ce que nous vivons. Et la même chose, priez pour les enfants, aimez vos enfants. Si vous avez de jeunes enfants, vous avez des enfants, priez pour eux. Il faut faire beaucoup de sacrifices, de prières, de consécration, pour que tes enfants puissent grandir dans la foi. Et si tes enfants ne sont pas dans la foi, il faut que ces enfants soient gagnés par la puissance de ta prière au nom de Jésus pour la gloire de Dieu. On va acclamer le nom de Jésus, il est notre sauveur. Ensuite, on parle de l'évangélisation. Tout à l'heure, je vous ai préparé une surprise. Vous allez voir le fruit de l'évangélisation. La même chose, quand on parle de l'évangélisation, on parle de témoignage, témoigner, d'être la lumière dans les ténèbres. Quand la lumière arrive, qu'est-ce qui se passe? Les ténèbres reculent. Je vous ai déjà dit mon témoignage quand j'étais à l'hôpital. Et là, on a encore beaucoup d'examens. Chaque fois quand on arrive, les médecins me disent quelque chose. C'est comme si ils sentaient que Dieu est en moi. Moi, je suis tout simple. Voilà, comme ça. Je parle avec. Et puis voilà. Ah, votre marche est atypique. Ou il y a quelque chose en vous. Ou dans cette chambre, on ressent quelque chose de différent. Pourquoi? Ah, c'est parce que Dieu est là. Dieu est là avec nous. Nous sommes ses enfants. Il prend soin de nous. Il vient nous donner à manger, Dieu, comme à Élie. Donc, l'évangélisation, la même chose. Soyons mobilisés, témoignons, parlons, par tous les moyens, partout où vous pouvez annoncer l'évangile. C'était vendredi matin. J'ai parlé avec un pasteur qui est très loin d'ici. Et il m'a dit, voilà, je lance un groupe. On est à peu près 15 personnes. Et puis, voilà, j'essaye de passer le message à toutes ces personnes pour que ces personnes puissent inviter d'autres personnes. Mais ils ne comprennent pas, ces anciens chrétiens, ils ne comprennent pas. Ils parlent d'eux, hein, là-bas. Ils ne comprennent pas que l'Église doit enfanter. Ils ne comprennent pas ce que ça veut dire implanter une Église, implanter un groupe. Ils ne comprennent pas. J'ai dit, garde la passion. On va prier, continue de prier. Parce que les hommes et les femmes qui sont dans le monde ont besoin de Jésus. Amen. Donc, voilà, l'évangélisation, un département très riche, très, très important. Ensuite, les finances. Bah, regardez, vous avez entendu. Voilà, si on n'avait rien fait, tout ça, voilà, ce serait. On devrait fermer, donc, peut-être la salle. Tout a été pourri, tout est changé. Et tout le toit a changé, 450 mètres plus le toit comme ça. Donc, 500 mètres carrés minimum a changé. Nous avons besoin des finances. Ils ont découvert les travaux encore plus que nous avons pensé au départ. Et prions vraiment, je vous lance ça, cette idée-là. On ne va pas attendre 4 ans parce qu'on a dit un toit par an. Mais je pense qu'il faut bloquer 2 mois l'année prochaine. L'année prochaine, 2 mois, on va parler de tout ça au niveau de responsable. Et puis pendant 2 mois, les travaux, voilà, nous avons Alexis, nous avons Jérémy et nous avons pas mal de bénévoles. Voilà, on se mettra tous au travail. Bon, moi, je suis viré, ils m'ont viré, donc je suis un peu pas très content, mais je dois accepter. Mais je vais quand même venir voir au moins, je vais monter sur l'échelle pour voir, et Christian tout de suite, « Ah, t'es où ?» Vous voyez, pour que l'Église puisse faire d'ici 2-3 cultes. Moi, quand j'étais jeune, je suis venu ici, et j'ai dit, « Seigneur, il faut que ça soit plat. » Donc, j'étais pris, Seigneur, 2e culte, 3e culte. Et je crois que c'est possible. Si nous allons construire un autel, l'Église va construire un autel de reconnaissance à notre Dieu. Le feu de Dieu va tomber. Il y aura des gens qui vont se donner à Jésus. Amen. Alléluia. C'est beau ça. Donc, la question des finances, en donnant, on reçoit. Voilà. Puis, si je vous parle comme ça, c'est que nous avons toujours donné. Nous bénissons l'œuvre de Dieu. Et puis, Dieu nous bénit. Dieu nous a bénis. On a su élever une grande famille, on a pu aider partiellement les uns et les autres. Pourquoi? Parce qu'on a donné. Voilà, et puis Dieu approuve ce sacrifice, cette offrande sur l'autel. Et je vous encourage, les amis. Quelqu'un est venu la dernière fois vers moi pour me dire, « Ah ben moi, Dieu m'a travaillé, je vais travailler, je vais m'engager. » Très bien, voilà, une personne, elle est là, je l'ai vue ce matin, quelque part. Parce qu'elle a compris que c'est fini maintenant. Rester tout le temps dans les pantoufles, il faut se mettre au travail. Voilà, donc elle a déjà accepté même de nettoyer, ça se discute, je pense. Il y a une autre personne qui est venue me dire la même chose. Je ne vais pas rester comme ça, je vais aussi participer à la croissance, pour faire grandir l'œuvre de Dieu. Quelqu'un est venu me voir, je vois cette personne ici. Moi, je vais découvrir la parole de Dieu, j'aimerais vraiment écouter la parole de Dieu, connaître voilà, étudier la parole de Dieu. Je lui ai dit, je te dirai où, à qui dois-tu aller pour approfondir ta connaissance. Donc, mes amis, levons nos têtes. Dieu par ange, par l'ange, il a dit à Élie, lève-toi, levons-nous. Levons-nous. Pourquoi vous êtes encore assis? Levons-nous. Levons-nous ensemble et montrez à Dieu, je suis là, Seigneur. Je vais me donner en action le programme de l'Église. Je vais te servir. Je vais être la lumière dans les ténèbres. Levons-nous et marchons la marche. Alexis, tu es jeune, la marche est encore longue. Gaël, la marche est longue devant toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et vous tous, hein, quand j'ai dit Alexis, ça concerne les jeunes hommes. Quand je dis Gaël, ça concerne les dames. Ton prénom. Non. Adeline, le chemin est long devant toi. Les combats, il y a aussi les victoires. Mais Dieu est là. Parce que tu as donné ta vie à Jésus. Que c'est beau. Amen.